Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, Midi à Dakar, Trésor N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Crise migratoire, le navire humanitaire Lifeline, en quête d'un port d'accueil depuis 6 jours en Méditerranée pour les 233 migrants, en majorité africains à son bord, attend toujours ce mercredi d'être autorisé à accoster sur l'île de Malte. Mais il a reçu le feu vert pour entrer dans les eaux maltaises pour se protéger du vent, a indiqué l'ONG Mission Lifeline dans un tweet posté peu avant 9h temps universel. Le Premier ministre maltais Joseph Muscat doit donner une conférence de presse aujourd'hui sur l'impasse en cours. La décision de faire accoster à Malte le navire humanitaire a été annoncée mardi par la France et l'Italie, les deux pays se disant prêts à accueillir une partie des personnes secourues. Mais si l'Italie, Malte, la France, le Portugal et l'Espagne ont fait part de leur disponibilité pour accueillir des migrants du Lifeline, d'autres pays européens manquent à l'appel, comme l'Allemagne, selon les médias italiens. Un refus de Berlin que le cofondateur de Mission Lifeline, Axel Steyer, a attribué ce mercredi au ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, très opposé à l'accueil des migrants. Politique au Burundi, la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi a accusé ce mercredi les Imbonera Kure, les membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir qualifié par l'ONU de milice, d'être les principaux responsables des exactions commises durant la récente campagne référendaire. L'une des enquêtrices, Lucie Aswagbor, a affirmé que les Imbonera Kure quadrillent le pays, renseignent les instances étatiques sur la présence d'opposants réels ou supposés dans chaque localité et sur chaque colline et harcèlent, contrôlent et intimident la population. Conflit au Soudan du Sud, maintenant, les pourparlers de paix inter-Sud-Soudanais continuent à Khartoum au Soudan. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son rival Riek Machar se sont entendus sur certains points, selon les autorités soudanaises, et ils vont probablement signer aujourd'hui un accord dans la capitale du Soudan. Le point avec Raïssa Girondin.
Les autorités soudanaises ont affirmé qu'un accord doit être signé aujourd'hui au palais présidentiel à Khartoum, sans donner plus de détails. Selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar ont trouvé des points d'accord susceptibles de faire progresser les efforts de paix. Selon le quotidien kenyan Daily Nation, le projet d'accord prévoit un cessez-le-feu, le déploiement d'une force africaine chargée d'en surveiller l'application et l'instauration de 3 capitales dans le pays pour répartir le pouvoir. Après leur rencontre la semaine dernière à Addis Abeba, les deux hommes se sont retrouvés hier à Khartoum pour tenter de mettre fin à une guerre civile fratricide. Ce conflit, depuis 2013, a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et a provoqué une crise humanitaire sans précédent. D'ailleurs, sur le terrain, un casque bleu du Bangladesh a été tué dans l'attaque d'un convoi humanitaire dans le sud du pays.
République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée dans le pays le 8 mai est en phase de stabilisation, selon les autorités congolaises. Aucun nouveau cas n'a été signalé ces derniers jours. Plus de détails avec notre envoyé spécial à Kinshasa, John Lindon.
Pour le gouvernement congolais, la situation semble se stabiliser quant à l'épidémie d'Ebola. En effet, aucun nouveau cas n'a été confirmé depuis plus de 2 semaines, selon le titulaire de la santé à Kinshasa.
Le 6 juin, nous n'avons pas eu de nouveaux cas confirmés. Donc ça, c'est une situation qui est très bonne. Et alors, par ailleurs, en fait, nous avons eu au total 38 cas confirmés, 18 décès probables. Nous avons eu 28 décès au total et parmi ces décès, donc nous avons eu 14 décès parmi les cas confirmés.
Ces résultats sont le fruit des efforts consentis à la fois par les autorités de Kinshasa et les partenaires internationaux. Ils sont aussi le fait de l'introduction dans la lutte contre l'épidémie d'un vaccin expérimental dont le rôle s'est avéré crucial.
Le vaccin nous a permis en fait de casser très rapidement la chaîne de transmission, surtout en vaccinant les contacts et les contacts des contacts, nous sommes parvenus à casser la chaîne de transmission.
Malgré ces résultats, des questions demeurent sur ce vaccin, notamment sur ses possibles effets secondaires. Toutefois, les autorités rassurent.
Nous n'avons pas observé d'énormes effets secondaires majeurs par rapport à ce vaccin, moi-même j'ai été vacciné et donc j'ai pas eu d'effets secondaires majeurs.
Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'Ebola en RDC. Le pays semble avoir acquis une expérience aujourd'hui reconnue dans la gestion de telles épidémies.
L'élément le plus important, c'est d'avoir un nombre limité d'agents sur le terrain qui agissent, qui collaborent sous le leadership du gouvernement. C'est vraiment l'élément le plus important parce que lorsqu'on a beaucoup d'agences sur le terrain et qu'il n'y a pas de coordination, il y a vraiment le risque d'avoir un chaos sur le terrain.
Pour le moment, le chaos semble avoir été évité, en particulier ici à Kinshasa où beaucoup craignaient qu'Ebola n'arrive et se propage. John Lyndon, VOA Afrique, Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Afrique de l'Ouest, au Nigeria, les éleveurs peuls ont rejeté la responsabilité des attaques du week-end qui ont fait une centaine de morts dans le centre du pays. Pour sa part, le gouvernement nigérien tente d'apaiser les tensions intercommunautaires croissantes, une situation qui a déjà coûté la vie à au moins 86 personnes et qui abadou.
Le président Muhammadu Buhari est arrivé hier dans la capitale de l'État, Jos, pour des entretiens privés avec le gouverneur du plateau, Simon Lalong. Son but est d'apaiser les tensions car la presse locale a publié de nombreux articles mardi matin suggérant que les éleveurs avaient reconnu avoir perpétré les récentes tueries dans l'État du plateau. Mais l'association des éleveurs de bétail a déclaré plus tard dans la journée que ces déclarations n'étaient rien d'autre que des mensonges. De son côté, la police avait déclaré que les violences de samedi dernier étaient perpétrées par des éleveurs peuls musulmans à l'encontre de la communauté chrétienne des agriculteurs Bérom. Le président Buhari, qui se présente à sa propre succession, est sous pression par ce conflit entre agriculteurs chrétiens et éleveurs musulmans. C'est un problème qui a déjà fait des centaines de morts depuis le début de l'année. Il est aussi accusé de ne pas prendre suffisamment parti en raison de ses origines Fulani.
En Guinée-Bissau, les fonctionnaires continuent leur grève de 3 jours entamée hier pour réclamer une hausse du salaire minimum et de meilleures conditions de travail. Le point avec Jean-Roger Bion.
La grève a été déclenchée par l'Union nationale des travailleurs de Guinée-Bissau, la plus grande centrale qui représente quelque 13 000 fonctionnaires. Hier à Bissau, les ministères étaient fermés et un service minimum garanti dans les hôpitaux. Le syndicat réclame un relèvement du salaire minimum de 19 000 à 59 000 francs CFA et de meilleures conditions de travail. À la fin du mois de mai, les salaires des députés bissau-guinéens sont passés de 650 000 à 850 000 francs CFA, avec dotation d'un véhicule 4x4 à chacun des 102 législateurs. Samedi dernier, le Parlement a adopté un budget de quelque 212 milliards de francs CFA, présenté par le gouvernement du Premier ministre Aristide Gomesh, après 3 années de crise politique.
Actualité aux États-Unis maintenant, un tribunal de San Diego en Californie dans le sud-ouest du pays a ordonné mardi la réunification des familles de migrants séparées par la police de l'immigration et dénonce la politique de tolérance zéro du gouvernement Trump en la matière. Selon l'injonction du tribunal, sauf si les parents en question représentent un danger pour leur progéniture, ils doivent être réunis avec leurs enfants dans les 14 jours pour les moins de 5 ans et 30 jours pour tous les autres. Et toujours aux États-Unis, la Cour suprême américaine a validé hier le décret migratoire du président Donald Trump interdisant l'entrée dans le pays aux ressortissants de certains nombres d'États étrangers, offrant ainsi une victoire définitive au chef de l'exécutif après une âpre bataille judiciaire. Bagasikoura.
5 juges ont voté pour et 4 contre. L'arrêt de la haute cour entérine le décret qui interdit d'entrer de façon permanente sur le sol américain les ressortissants de 6 pays, pour la plupart à majorité musulmane. La Cour suprême des États-Unis a estimé que le président n'a fait qu'user de façon légitime de ses prérogatives en matière d'immigration. Et dans un tweet, M. Trump a salué, je cite, une fantastique victoire pour le peuple américain. Son décret avait provoqué un tollé mondial à sa promulgation une semaine après son arrivée à la Maison-Blanche. Par la suite, plusieurs juges ont bloqué son application et la Cour suprême met fin donc à la saga judiciaire. La 3e mouture de texte ferme les frontières américaines aux ressortissants du Yémen, de Syrie, de la Libye, de l'Iran, de la Somalie et de la Corée du Nord. Il bloque aussi l'entrée à certains responsables du Venezuela. Des dizaines d'associations de défense des migrants ou des organisations religieuses ont pris position dans ce débat.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.